Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut Alex.
Salut Thomas, je suis content que tu sois là parce que j'ai un petit truc à te demander.
Ah enfin, je suis invité sur les best-of,
oui,
c'est ça?
Oui.
Enfin, je suis adoubé comme chroniqueur officiel de par Jupiter. On reconnaît mon immense talent.
Attends, moi, j'ai toujours reconnu ton immense talent, moi.
Hein? Enfin, moi, comme disait Corneille, la valeur n'attend pas le nombre des chroniques. En quoi puis-je t'être utile, petit Alex?
Alors, ça reste entre nous, mais je profite que Charline soit pas là. J'ai besoin de toi pour pimper un peu l'émission.
Ouais, bah, tu sais que j'ai bien des idées depuis longtemps, mais je suis pas sûr que Charline soit d'accord.
Et dis toujours.
Bah... Ah, des slogans, des jeux de mots, des punchlines.
Ouais, vas-y.
Par Jupiter, le paquebot de France Inter avec Thomas Croisière.
Non, ouais, enfin Thomas...
Attends. Par Jupiter s'amuse avec Thomas Croisière.
Non, c'est pas tant ça le...
Ce qui est super, c'est par Jupiter avec
Thomas Croisière. Oui, on a compris, mais c'est... Non, Thomas, non, on cherche plutôt des idées pour renouveler un peu l'émission et peut-être les choses qu'il faudrait enlever aussi de l'émission.
Maintenant que tu me le dis... Ah. À chaque fois que je viens, je me dis qu'il y a quelqu'un qui prend beaucoup trop de place dans cette émission.
Oui, mais on peut pas virer Charline.
Non, non, l'autre, celui qui a le nom d'hôtel, là.
Ibis ?
Meurice, voilà.
Mais Guillaume, mais t'es pas le premier à me dire ça, alors peut-être vraiment qu'on devrait se poser des questions.
Bah oui, peut-être.
Ouais. Bon, en attendant, aujourd'hui, t'es dans le best-of et on va écouter ta chronique avec Vladimir Cosma.
Les best-of de par Jupiter avec Thomas Croisière.
Fatigue.
Bonjour la France Inter, vous écoutez le troisième épisode des Vacances de l'Humour. Et sur l'autoroute de ces vacances, on s'arrêtera pour embarquer Vladimir Cosma, avec lequel nous parlerons de l'Europe, de ce qu'elle signifie pour lui, pour nous, aujourd'hui. Quant à la France, elle est LE pays des ciné-concerts. Au pied de l'écran où un film est projeté, un orchestre joue la musique du film, un moyen de faire entrer Star Wars à la Philharmonie de Paris. Et puis on récupère l'acteur Lionel Abelansky sur le trajet, avec qui on aborde le thème des catastrophistes. Ce sont ceux qui préparent la fin du monde à cause du réchauffement climatique. Et puisqu'Abelansky est l'un des plus fameux seconds rôles du cinéma, on tentera une passerelle avec les auteurs de romans qui se passionnent pour les seconds rôles de l'histoire afin d'en faire des héros. Lui, je lui ai confié le volant pour aller récupérer sur la route des chroniqueurs, Alex Vizorek.
Bonjour Charlie de Valounaker, j'ai pris ce que je pouvais en stop. Hein. Bon, c'est pas toujours les meilleurs, mais on fait avec. Thomas Croisière, bien évidemment.
Oh là là.
Il est ultra fan de Vladimir Cosma et il lui a dit qu'il avait apporté les vinyles en studio.
Oh, c'était beau.
C'était beau. Guillaume Meurice avec sa chronique phare de l'année, celle avec la stagiaire Juliette. Ils parleront d'écologie. C'était un beau moment de radio. Clara Dupont-Monod viendra parler des noms ridicules dans l'histoire de France. Un livre les mentionne et on terminera comme chaque jour avec Frédéric Fromet, chaque jour de la semaine. L'amour au catéchisme, une thématique qui amuse toujours Fromet sur des musiques de Cosma qui étaient moins amusées.
Eh bien lui, Cosma, on va démarrer avec lui et son côté très pince sans rire.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue Vladimir Cosma. Nous sommes très heureux de passer cette heure en votre compagnie.
Mais moi aussi.
Qu'est-ce qui se passe quand vos musiques s'affranchissent du film? Qu'elles sont libres, sans images? Parce qu'on a une idée bien sûr quand on les écoute sur notre chaîne IFI ou quand Thomas Croisière place ses magnifiques vinyles sur sa platine. Mais quand on est en concert et qu'on n'a pas les images, que ça s'affranchit du film, qu'est-ce qui se passe?
Bah écoutez, il se passe qu'elles deviennent, j'espère, plus belles, plus amples, plus grandes. Parce que pour qu'une musique puisse s'exprimer sans le support de l'image, sans tout ça, il faut qu'elle vive toute seule.
Mm-hmm.
Donc pour qu'elle vive toute seule, il y a une construction légèrement différente, même parfois complètement différente, qui fait que tout d'un coup la musique vous l'écoutez comme une musique simplement écrite pour le concert. Et si vous voulez, j'ai travaillé une grande partie de ma vie pour le cinéma, ce qui est une chose formidable parce que le cinéma nous donne la possibilité de nous faire entendre, nous compositeurs, par des millions et millions de gens. La seule chose que j'ai regrettée pendant cette période, c'est que dans la musique de film, vous êtes souvent très restreint au niveau du timing. Vous faites des musiques 42 secondes, 2 minutes quand c'est un générique. Et il me manquait le développement, la liberté dont vous parlez, de pouvoir développer, transformer, donner une force à ces musiques qui me manquaient dans le cadre du cinéma. Et voilà, le concert me donne cette possibilité. Aussi, on vit dans une période où les choses sont de plus en plus mécanisées, électrifiées. Vous savez, même quand je fais actuellement des musiques de films, ou parfois, on se trouve avec 3 musiciens, guitaristes, de synthé, des choses. Et alors que le concert, vous l'avez énuméré, presque 200 personnes sur scène, nous jouons en direct, ensemble. C'est un plaisir extraordinaire de partage de la musique entre nous, musiciens, et le public.
Eh bien, venons-en à votre œuvre avec Thomas Croisière.
Destiné,
évidemment.
On était tous les deux destinés.
Oui, Vladimir Cosma, nous étions tous les deux destinés. Pas seulement parce que vous êtes le compositeur de ce pastiche estival pour les sous-doués en vacances, pas seulement parce que je suis le grand blond vénitien avec une casquette blanche, et pas seulement parce que je suis l'heureux acheteur du lot les musiques de Vladimir Cosma, de la vente aux enchères de la discothèque de Radio France. Votre présence à mes côtés prouve une chose, que mes rêves sont ma réalité. Non, ce n'est pas parce que mon cœur fait boum et que vous avez vendu 27 millions d'exemplaires de ce tube de Richard Sanderson que l'on est obligé de me remémorer cet imparable slow sur lequel Elsa Veil m'a mis un râteau en cinquième, ainsi qu'en quatrième, en troisième, et si je n'avais pas déménagé, je suis sûr qu'elle continuerait. Non, cher Vladimir, je vais profiter de votre présence pour vous présenter mon top 4 très personnel des films dont Vladimir Cosma a composé la musique. Numéro 4.
Si je peux me permettre de vous donner un conseil pour la prochaine émission, rajeunissez vos collaborateurs.
Mais qui vous autorise à me donner des conseils?
Je suis le directeur de la chaîne.
Pour combien de temps? Si ça se trouve dans un mois, vous serez, je sais pas moi, à la SNCF ou au ministère du temps libre. Vous savez mon petit gars, faut pas vous gourer parce que moi ça fait 30 ans que je fais le comique. Hein. Alors ce genre de réflexion, pas chez moi.
Les Rois du Gag, une de vos 10 collaborations avec Claude Zidi pour qui vous fit aussi L'Aile ou la Cuisse ou Banzai. C'est l'occasion d'aborder notre quotidien, celui des galériens de l'humour. Après avoir vu ce film, vous aurez beaucoup plus d'indulgence pour les brèves d'Alex Vizorek. Le génial Michel Serrault cabotine à souhait en Gaëtan, sorte de Colaro sur le retour, enfin de Colaro tout court, et en fait des tonnes au propre comme au figuré en Robert Wilson, parodie d'Orson Welles qui nous rappelle qu'il est beaucoup plus difficile de faire rire le monde que de faire jubiler le petit bonhomme Ramnard de Télérama. Et au fond, comme il est dit par Gérard Jugnot dans le film, il n'y a qu'un seul réalisateur que je connais qui soit très profond, c'est Cousteau. Numéro 3.
Oiseau dans la clairière,
La voix d'Isabelle Aubray pour Alexandre le Bienheureux, votre première musique de film suite au départ en Amérique de Michel Legrand dont vous étiez l'assistant sur Les Demoiselles de Rochefort. Alexandre est une comédie visionnaire sur un homme qui refuse le productivisme et décide un matin de ne plus se lever. C'est aussi la première de vos 13 collaborations avec Yves Robert pour qui vous composâtes le grand blond, un éléphant ça trompe énormément, ou Le Jumeau avec Chet Baker. Ce film nous questionne sur nos choix de vie, la liberté, la décroissance et la beauté de Marlène Jobert. Je connais peu de moments de cinéma aussi émouvants que ce plan final sur la bouille de Philippe Noiret, qui après avoir traversé un champ de tournesol répond à la question « Alexandre, mais où vas-tu ?»« Je vais voir. » Puis il s'éloigne au milieu d'un vol de volatiles sur les violons virtuoses de Vladimir Cosma. Numéro 2.
On ne peut pas te le donner, mon chéri.
Pourquoi ?
Eh bien parce que c'est un monsieur. On ne peut pas te donner un monsieur.
Pourquoi ?
Le jouet d'un autre géant de la comédie, Francis Weber, pour qui vous écrivîtes La Chèvre ou Le Dîner de Con, et avec Pierre Richard, pour qui vous élaborâtes 5 musiques, dont celle à laquelle mon fils doit son prénom, Les Malheurs d'Alfred. Le jouet est une comédie sociale qui nous parle de paternité, du pouvoir de l'argent, et nous rappelle que si l'amour peut être tarifé, il ne s'achète pas. Le jouet, dans lequel Michel Bouquet, en glacial président remballe cocher, demande à Jacques-François « Qui de nous deux est le monstre Blénac ? Moi qui vous demande d'ôter votre pantalon ?» ou vous qui acceptez de montrer votre derrière. Numéro 1. Le bal d'Ettore Scola, pour lequel vous avez remporté votre deuxième César après Diva de Jean-Jacques Benex. Là, on entend la musique de l'As des As, mais on va l'abaisser. Ce film a fait le tour du monde car dans cette salle de bal défile l'histoire de France des années folles aux années 80 au gré des musiques qui ont rythmé ces décennies. 1h40, sans paroles véritables, tour de fausse narratif qui n'aurait pu exister sans votre musique. À l'heure où de nombreux réalisateurs se muent en faiseurs de clips pris à pic et qui préfèrent s'acheter un standard de la pop entendu sur Spotify et qui ne raconte pas grand-chose, parcourir vos 50 ans de succès, c'est se rappeler qu'il y a trois auteurs dans un film. Le réalisateur, le scénariste et le compositeur. Pas de Léon sans Morricone, moins d'Hitchcock sans Bernard Herrmann et pas d'âge d'or de la comédie française sans Cosma. Vos réalisateurs l'ont bien compris car ils vous sont fidèles. De Se citer plus haut à Claude Pinotto, en passant par Pascal Thomas ou plus récemment Jean-Pierre Mocky. Et vous allez me dire que j'ai passé à l'as Gérard Houry, qui même s'il n'avait pas aimé la flûte de Pan de Zamphir sur le Grand Blond, vous a confié celle de Rabbi Jacob, que vous avez nourri de votre tropisme klezmer d'Europe centrale et de votre admiration pour Louis de Funès. Houry, pour qui vous avez composé six films, dont celle qui conclut cette chronique, beaucoup trop longue pour Par Jupiter, mais bien trop courte pour votre carrière. Cette musique qui nous rappelle qu'en musique de film, c'est vraiment vous, l'as des as.
Vladimir Cosma, vous voulez réagir peut-être à cette très belle chronique de Thomas ?
Écoutez, j'étais très ému. L'entendre parler de mes musiques, j'avais l'impression de les voir revivre, quoi, d'une certaine manière. Et voilà, j'étais très, très ému, impressionné.
Vladimir Cosma, nous avions envie de parler d'Europe avec vous. Et l'information en France concernant les futures élections européennes, c'est la gauche qui n'a pas réussi à s'entendre pour présenter une liste commune, alors que les populistes ont déjà avalé une grosse partie du vieux continent, comme un nouveau mur qui vient diviser l'Europe. Alors cette question, pourquoi la gauche est-elle désunie ? Tentative de réponse, hypothèse, hein, pure et simple.
Et maintenant, c'est moi qui commande, je suis le plus grand.
Quoi ?
C'est moi qui commande, je suis le plus grand.
Non, c'est moi qui commande parce que je suis le plus fort.
Non, c'est moi qui commande, je suis le plus gros.
Non, c'est moi qui commande parce que je suis le plus
fort. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi.
Le gendarmes et les extraterrestres de Jean Giraud. Alors, Vladimir Cosma, la Roumanie a pris pour la première fois la présidente tournante de l'Union européenne.
Ah, ça fait c'est formidable, ça. Enfin, ça me fait vibrer l'Europe, là. Tout d'un coup,
ah, voilà,
une vraie Europe qui arrive et tout, ça, tout va se régler maintenant. Vous allez voir, vous allez voir.
On attend de voir ce que ça va donner.
Parce que vous savez que la Roumanie a donné Dracula, ce qui a arrangé beaucoup... Le sort des Roumains et des Européens. Maintenant, ils ont la présidence, ils vont appliquer peut-être la même technique.
Méthode.
Voilà.
C'est vrai. Et donc, c'est sous leur présidence qu'il y aura donc les élections européennes. Vladimir Cosma, est-ce que vous vous exprimez parfois sur la politique? Ça vous arrive? J'imagine que l'Europe et le péril populiste, ça doit aussi vous poser des questions, faire vibrer l'Europe. Vous êtes un Européen convaincu?
Ben, je suis... Européen de naissance, oui. Vous savez, on n'est pas ce qu'on veut, donc que je sois convaincu ou pas, ça n'a aucune importance, je le suis, quoi. Donc,
l'idée de l'Europe au-dessus des États, par rapport à l'Europe des États, est-ce qu'elle vous convainc?
Pas tout à fait sur le plan professionnel, parce que j'aime bien prendre les décisions moi-même, musicalement, etc. Depuis que l'Europe continue ça, nos droits d'auteur sont devenus rien du tout. Il y a des règles qui nous sont imposées, qui sont la plupart du temps à notre défaveur. Donc ça me plaît pas beaucoup. L'idée abstraite, bien sûr, est très très belle, mais quand je vois, vous parlez vous-même de populisme et tout ça, alors qu'est-ce que c'est que cette Europe? Pourquoi, si c'est tellement uni, pourquoi il y a tous ces courants qui arrivent où? En Europe, et de plus en plus. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi? Je ne sais pas. Je préfère m'en tenir au do majeur, sol mineur, allegro, manon troppo, piano, pianissimo, voilà, ça je sais bien. Le reste, je ne sais pas. Mais je vous répète, les Roumains sont maintenant à la tête de l'Europe, donc vous allez voir que ça va être mieux, quoi.
Ça va. Je pense que ça peut clore le débat. Qu'on peut rester là-dessus parce que c'est une note positive.
Oui.
Et on met tout l'espoir sur les Roumains, ça on peut dire. Toute l'Europe derrière les Roumains pendant leur présidence.
Ça peut pas aller pire que maintenant, quoi.
Ça nous rassure, c'est bien.
Vous pouvez vraiment que remonter la chose. Hein.
Oui.
Ça c'est parce que vous allez décrocher un poste avec ça.
Oui.
Peut-être
pour les mener à la baguette.
Commissaire à la culture.
Bah écoutez, je dirige les concerts là au Organ Rex, j'ai décroché déjà ça.
C'est déjà pas mal.
Ouais. C'est vrai. Et toutes vos collaborations font de vous aussi un Européen. Vous faites l'Europe de la culture, Vladimir Cosma. Parlons musique alors. Hein. Parce que la France offre de plus en plus de ciné-concerts. C'est-à-dire que dans une salle de spectacle, un film est projeté, tandis qu'au pied de l'écran, un orchestre joue la musique du film. Généralement, c'est son compositeur qui tire la baguette. Musique, cinéma, cinéma, musique.
Blanc et noir, extérieur nuiseux sur la Jaguar. Comme au cinéma.
Alain.
Mise au point sur moi. Mise au point.
Ah oui, bah c'est bien lui alors, mise au point sur moi. Alain Delon. Qui chante comme au cinéma, de Romano Musumara, auteur de En rouge et noir de Jeanne Mas, de Comme un ouragan de Stéphanie Monaco ou encore de T'en va pas d'Elsa.
Eh oui, brillant.
Ouais. Alors, Vladimir Cosma, avez-vous déjà fait l'expérience du ciné-concert de cette manière-là, avec le film projeté et le live?
Écoutez, j'ai fait un tout petit peu et j'ai renoncé assez vite.
Pourquoi?
Parce que, si vous voulez, ma démarche était exactement à l'opposé de ça. C'est-à-dire que j'ai essayé de montrer que la musique peut vivre sans le film et sans les images. Mmh. Et j'ai pensé que ceux qui veulent voir un mélange de films et de musique, ils peuvent très bien aller voir le film et comme ça, ils entendent la musique et l'image. Bon, c'est pas... Ceci dit, je comprends très bien cette démarche pour certains films. Je n'ai pas fait beaucoup de films qui pourraient se prêter à un ciné-concert parce que c'est souvent les grands films américains où il y a la musique d'un bout à l'autre.
Ouais, on a cité La La Land, il y a aussi Star Wars à la Philharmonie, c'est une manière de démocratiser.
Voilà,
aussi.
Non mais c'est tout à fait envisageable. Vous savez, c'est une sorte de retour en arrière parce que le cinéma, au temps du muet, et ça, il y avait l'orchestre qui jouait dans les fosses et on projetait le film et l'orchestre était vivant. Pourquoi pas? C'est comme disait Lénine, un pas en avant, deux pas en arrière. Alors c'est ça, on fait du progrès en allant vers le passé.
Abordons ce dernier sujet, les faux Queen, faux Led Zeppelin, faux Doors sont en tournée, ça s'appelle Rock Legends, et ils reprennent les tubes des groupes mythiques de façon très professionnelle, hein, mais ce sont des vrais faux groupes, et parfois il y a des indices. Bah oui, quand elle est en japonais, il y a un indice. Hein, Bohemian Rhapsody. L'occasion de vous demander, Vladimir Kosma, est-ce que vous êtes rock ? Est-ce que vous êtes un peu rock ?
Non.
Non ?
Non, je suis pas. Non, ma culture n'est pas particulièrement anglo-saxonne et rock. Mais je sais apprécier quand même. J'apprécie quand j'entends
des choses bien. Ça pose la question, ces groupes qui sont sur scène, qui ont énormément de succès, qui reprennent les groupes en les singeant, même dans les costumes, etc. Rock Legends, et donc il y a Queen qui lui ressemble et qui les singe. Est-ce que ça pose la question de la postérité de l'œuvre ? Est-ce que ça vous plairait qu'il y ait un tribute tout
Vladimir Kosma dans 50 ans, quelqu'un qui reprend. Est-ce que c'est quelque chose ?
Nous, les artistes, on travaille pour durer et en espérant qu'on va exister à travers notre musique après notre mort, si je peux dire ça. Et bon, on joue du Chopin aujourd'hui, il n'y a plus Chopin ou Liszt pour les jouer eux-mêmes, il y a d'autres qui le jouent, certes probablement différemment de ce qu'ils le faisaient eux-mêmes et peut-être moins bien ou mieux, je ne sais pas. Enfin, c'est positif, quoi.
C'est quelque chose qui vous angoisse, parce que, prenons Van Gogh, peut-être il aurait préféré avoir une vie heureuse plutôt que de savoir qu'aujourd'hui c'est un des plus grands peintres au monde, alors qu'à l'époque il n'avait pas vendu une toile.
Oui, mais vous savez, il y a des gens qui sont doués pour le bonheur, il y a d'autres qui sont doués pour le malheur. C'était le cas de Van Gogh, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il
mais
a laissé.
Mais il n'a pas été reconnu sur le moment, comment, c'est ce que je veux dire. Oui. Vous êtes reconnu aujourd'hui.
Oui, mais si vous voulez, à très peu comme Van Gogh, déjà au niveau du talent et au niveau des artistes qui n'ont pas été... En musique, vous n'avez pas d'exemple de grands compositeurs ou grands musiciens qui n'ont pas été reconnus dès leur vivant.
Il vient troller les vacances de l'humour, bien sûr, il ne va pas nous laisser tranquille. Guillaume Meurice, aujourd'hui, Alex, où est-ce qu'il est allé ?
Alors, il a été trollé lui-même par la stagiaire. Vous
oh là là !
Oh là là, Juliette, qu'est-ce qu'elle nous a parlé dans le bureau ? Qu'est-ce qu'elle nous a emmerdé ? Eh ben, on s'est dit, tu sais quoi ? Si tu sais tout mieux faire que les autres, t'as qu'à faire une chronique. Eh ben, elle nous a bien eu.
On l'embrasse.
Bonjour, donc je suis en observation depuis le début de la semaine et je vais faire la chronique de Guillaume. Donc, je suis donc allée interroger des vieux racistes de droite homophobes.
Attends. Non, mais révèle pas tous les trucs d'un coup, là.
Oui, bah, tu critiques toujours ces gens-là, mais si c'était pas là, tu serais déjà au chômage.
Je crois qu'elle a un peu trop bien observé depuis le début de la semaine, Juliette.
En plus, tu manges des pâtes à la crème de truffe au resto.
Non, alors attends, putain, ça part en couille. Ça n'intéresse pas les gens. Non, attendez, ça n'intéresse personne. Alors, pour une chronique, Juliette, il te faut un vrai sujet.
Bah, moi, je voulais faire l'écologie.
Oh, putain, l'écologie, non, les gens s'en foutent.
Bah, non, pas les gens de mon âge, justement. On manifeste toutes les semaines. C'est notre génération qui va tout prendre.
Bon, bah, vas-y, Juliette Binoche, alors.
T'as un problème, le Gérard Gir du pauvre.
Richard Gir, déjà. Respecte un peu les prénoms. Allez, ça va être long. Allez, enchaîne, Juliette, allez.
Donc, comme nous sommes confrontés à une crise écologique majeure, je suis allée interroger les générations précédentes sur leurs responsabilités. Par exemple, ce monsieur, est-ce qu'il est écolo ?
Oui et non.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, je ne fais pas correctement mes tris de déchets, par exemple.
Par exemple, ma génération, on va avoir une planète où on voit les glaciers fondre, les espèces d'animaux disparaître. Est-ce que vous culpabilisez de nous laisser une planète comme ça ?
Non, pas du tout.
Pourquoi ?
C'est pas forcément qu'à moi de faire le boulot.
Est-ce que vous pensez que si tout le monde se disait c'est pas à mon échelle que je vais changer quelque chose, et ben ce serait encore pire ?
Je sais pas quoi dire.
Putain, attendez, je crois que j'ai créé une sorte de Élise Lucet Junior.
Eh, tu te calmes, c'est ma chronique, ok ?
Ok, putain, t'es vachement directif quand même, Julien.
C'est comme ça, on n'a pas le temps. C'est la Startup Nation. On est à l'époque de Macron et comme disait Goebbels.
Oh là, wow. Ah non, alors là, attendez, parce que je suis pas sûr, le lien nazi-Macron...
Mais pourquoi ?
Non, j'éviterai. Si
voilà, ils auraient qu'à essayer, a priori, c'est non.
Non, ils n'ont pas essayé, j'ai pas compris.
Bon, allez, continue.
Et cet autre monsieur, est-ce qu'il se sent coupable de la crise climatique ?
Pas plus qu'un autre. Je le regrette pour mes petites filles.
Oui ou non ?
Je ne peux pas répondre aussi affirmatif, oui ou non.
Oui, non ou entre les deux ?
Je le déplore et je regrette pour les générations futures.
Du coup, c'est entre les deux ?
Oui, entre les deux, on va dire ça.
Putain, mais t'es chiante, en fait !
Mais oui, je t'ai observé.
Non, Juliette, là, c'est des méthodes staliniennes.
Mais oui, je t'ai observé, je te dis.
Bon, allez, continue.
Bon, allons demander à une dame.
Je ne suis pas très écolo, honnêtement. Alors, donc, je ne suis pas du tout pour tous les grands trucs de la planète et tout ça, non. Je vais en Bretagne, je me baigne dans une eau très froide. Et partant de canicule et à 18, c'est génial, hein.
C'est génial. Il faut attendre que l'eau, elle soit à 37 à Brest pour que les gens ils se rendent compte de l'urgence.
Non, mais attends, t'es dur parce que cette dame, c'est peut-être une climatologue. Déjà, toi, t'y connais rien. T'as 13 ans, tu fais quoi?
Okay. Bah, toi, tu fais quoi pour le climat?
Moi, je fais quoi pour le climat? Déjà, j'ai un shampoing Ushuaïa, donc je connais un peu plus que toi. Et j'ai un mug François de Rugy Forever. Très joli, c'est lui qui me l'a donné.
Super, je suis trop jalouse.
Ouais, enfin, en tout cas, la dame, c'est peut-être une experte, c'est ça que je veux dire.
Bah, une experte, t'es sûre de ça? Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'elle y connaît en climat?
Je n'y connais rien en trucs, terrasse, machin, des réchauffements climatiques et tout ça. Je trouve que c'est normal. Le monde est de plus en plus peuplé. Peut-être qu'on ira voir Mars et ça va un peu dégager des gens sur Terre et ils iront polluer Mars.
Bonne nouvelle. Et si on allait emmerder les Martiens?
Mais attends, je me suis trompé. C'était pas une climatologue, mais c'est peut-être une astrophysicienne.
Ouais. Oui, bah excuse-moi, mais elle a autant de chances de devenir astrophysicienne que Clara Dupont-Moyeau d'avoir le prix Goncourt.
Ah, c'est excellent. Alors là, je dis oui. Ah, mais, elle progresse, hein, quand même, Juju. C'est bien, je suis contente. T'auras une bonne note. Continue.
Allons voir quelqu'un d'autre. Est-ce que lui, par hasard, il se sentirait concerné par le réchauffement climatique?
Non, non.
Vous culpabilisez pas, parce que si jamais, par exemple, vous avez des enfants ou des petits-enfants qui savent jamais ce que c'est un ours polaire, puisque l'espèce aura disparu à cause du réchauffement climatique.
Bah déjà, j'ai pas d'enfants pour l'instant et pas de petits-enfants, donc c'est vrai que je me pose pas la question. Et puis c'est pas grave, je les emmènerai voir les dauphins à la place des ours polaires.
Et bah voilà une solution concrète, voilà le génie. Il y a plus d'ours polaires, bam, on va voir les dauphins.
Et t'as fini de te moquer des gens là?
Non, j'ai pas fini, j'étais bien observée.
Non, bah et alors?
Une certaine Edith, ça te dirait quelque chose?
Ah putain, Edith l'esthéticienne?
Bah oui, tu sais bien, celle que tu vas voir quand t'as pas d'idée.
Wow, révèle pas tous les trucs, j'ai dit. Quel rapport avec l'écologie et Edith?
Mais parce qu'elle est écolo, Edith, elle recycle.
Regarde, tout ça, mes bouteilles, mais qu'est-ce faire? Le verre, n'importe comment, le verre, ça pollue pas. Ça se recycle, le verre.
Donc vous, vous
Ils
triez.
Du papier avec, je crois, c'est ça, ça se recycle. Donc. Du papier avec, non? Je dis pas de conneries, là. Faut me couper quand je dis des trucs.
Donc, pour vous, comment est-ce que vous faites du papier avec du verre? Parce qu'on aimerait bien savoir.
J'en sais rien, parce que c'est les connards qui écrivent ça dans la presse, c'est pas moi. Hein.
Voilà, bon, on ira voir les connards de la presse. Voilà, merci Edith. Ça y est, t'as fini Juliette?
Non, pas tout à fait. J'avais une petite dernière question pour Edith. Alors, est-ce que vous pensez pas qu'en fait, Johnny, oui, justement, il était pas très écolo dans l'âme, parce qu'on sait qu'il aime beaucoup les grosses motos, oui, et à mon avis, ces motos, elles n'étaient pas vraiment électriques.
Non, je sais, c'est exact, les grosses motos. Les bateaux, les gros, il y a eu des yachts, les voitures, c'était que des grosses bagnoles. Oui, je suis d'accord. C'était Jojo, il n'y a pas que lui, hein.
Non, et c'est bien ça le problème. Il n'y a pas que lui. Il y a toute la lâcheté des politiques, des industriels et même des citoyens depuis des dizaines d'années. Et parce que, vu le réchauffement climatique, pour attraper vos conneries, ça va être chaud.
La poésie s'en est allée. Je la soupçonne d'être passée par chez toi. De s'être allongé dans ton lit et d'avoir écouté la pluie sur le toit. Elle avait si peu à confier, pas du genre à trop s'épancher quelques mots. Qu'elle a laissé sur ton bureau quelques ratures au stylo, puis elle s'en est. Puis elle s'en est allée. Il nous a fallu quelques jours pour être moins aveugle et sourd et trouver que l'air était un peu plus lourd, nos épaules un peu plus rentrées et pensées. Qu'après avoir tant annoncé, un départ mille fois reporté, elle avait ôté le manteau du crochet, où depuis des siècles il pendait, puis s'en était allé, puis s'en était allé. Sommes-nous des enfants perdus, la forêt à perte de vue, ou le soir refuse de nous abandonner, de laisser à l'obscurité tout pouvoir. Sur notre histoire mal engagée, la pleine lune est convoquée. compliqué.
La poésie de Dominique A. La poésie, c'est le titre.
Voilà, j'avais bien...
Ouais. Ouais. Les deux mais sont valables.
On est d'accord.
Et on poursuit avec l'acteur qu'on adore, Lionel Abelansky.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanunacker.
Ah, voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter ?
Bienvenue, Lionel Abelansky.
Ah, mais c'est moi qui vous remercie. Je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi.
Bah, nous aussi. On a vu tellement de films avec vous dedans.
Et des pièces.
Et des pièces aussi, évidemment, et de la télévision. Mais aujourd'hui, on va parler théâtre. C'est Alex Vizorek qui est allé vous voir dans une pièce qui s'intitule « Encore un instant ». Vous jouez Lionel Abelansky aux côtés de Michel Larocque, de François Berléand et de Vinnie Dargaud. Ça se passe au Théâtre Édouard VII, dans une mise en scène de Bernard Murat, et c'est une pièce de Fabrice Roger Lacan.
Qui a écrit Cravate Club, pour ceux qui se souviennent, avec Édouard Baird notamment. La pièce démarre, un couple se dispute sur scène, Michel Larocque, François Berléand, il n'a pas envie qu'elle accueille un auteur qui va lui proposer une pièce de théâtre, ils sont comédiens tous les deux, et c'est vous, cet auteur, vous arrivez dans cette pièce assez vite, et on voit que vous ne vous adressez qu'à Michel Larocque, et là, on commence à comprendre un petit peu l'intrigue.
Que s'est-il passé ?
Mais pourquoi il ne parle pas à François Berléand ?
C'est-à-dire que c'est une comédie d'amour un peu inversée, parce qu'en général, dans les pièces où on parle d'amour, ça se passe très très mal. Alors que là, au départ, ce couple qui est ensemble depuis 30 ans, ça se passe très bien. Le seul problème, c'est qu'il est mort.
Oui, c'est un problème en soi, oui.
Et donc, elle vit avec ce fantôme et...
C'est comme le sixième sens avec Bruce Willis, mais sur scène avec.
Il y a cet esprit-là, non ? Vous avez raison. Sauf qu'on donne.
Le plagiat, vous voulez dire ? Un petit peu le Gad Elmaleh.
Je crois qu'il avait écrit avant Fabrice Roger Lacan.
Surtout, la clé, elle est donnée tout de suite. Ce qui n'est pas le cas du sixième sens. On comprend tout de suite.
Au bout de deux minutes.
Voilà,
oui.
C'est pour ça que je me permets de le dire.
Il y a un premier personnage qui rentre avant moi, qui est jeune voisin, fou amoureux d'elle. Et en fait, nous, les deux personnages, donc Vinnie Dargaud, qui est ce jeune voisin, qui venons de l'extérieur, qui sommes la vie, on vient perturber la quiétude de ce deuil quoi, qu'elle ne veut pas faire.
Parce qu'il est sur son épaule, il lui rappelle qu'ils sont heureux, enfin qu'ils ont été heureux, et elle a pas envie de chercher... Elle a même pas spécialement envie de remonter sur scène. C'est un moment, elle dit, bon, il faudrait que j'y aille, parce que ça fait 6-9 mois que je fais plus rien depuis que tu es parti. Et donc elle accepte ce rendez-vous avec vous, elle sait que vous êtes un peu amoureux d'elle.
Elle sent que...
Ah, en tout cas, il lui dit.
Ouais. Lui dit, oui, alors je suis... Je suis un auteur que lui méprise profondément. En plus, je joue donc un auteur à succès qui fait une pièce par an la démarche de ce personnage, c'est d'avoir écrit la pièce de sa vie pour cette femme, pour retrouver cette femme, parce que ils ont eu une toute petite histoire il y a une trentaine d'années. Et il vient la sauver. C'est un peu démesuré en fait. Il se prend un peu pour un sauveur, un Superman.
Il arrive. Il dit que c'est son tour.
Et c'est son tour, ouais, de prendre la place du Pygmalion.
Mais vous dites que c'est une pièce sur l'amour, et moi j'ai trouvé que c'était une pièce sur la mort, mais positive. Vu que la mort, elle est là, il est présent, il est sympa. Mais ça nous donne pas du tout cette impression de deuil, mais c'est une pièce sur le deuil.
Oui, mais elle a une vision idéalisée de son couple, parce que puisque c'est on comprend très vite que ce personnage est dans sa tête, et c'est elle qui le, c'est sa marionnette, c'est-à-dire qu'elle prend que ce qu'elle... Elle lui fait dire à peu près que ce qu'elle a envie d'entendre, que ce qu'elle a envie de vivre à ce moment-là.
J'ai trouvé que pas toujours, parce que parfois il la remet en question, mais on imagine effectivement...
Mais ça fait partie de ce qu'ils ont vécu aussi, enfin de ce qu'elle a pu imaginer, ou de ce qu'elle aurait idéalisé de vivre avec lui, ou de vivre encore aujourd'hui avec lui.
Et donc ça, c'est, moi j'ai trouvé ça très intéressant, cette réflexion là-dessus. Il y a des moments très drôles, il y a des moments très touchants. Comment c'est de jouer, parce qu'on dit toujours qu'au théâtre, il faut être vigilant à tout ce qui se passe, avec un acteur que vous n'êtes pas censé voir. C'est-à-dire que vous devez tout faire pour pas le regarder.
Ah, mais c'est, en répétition, c'était compliqué. Et puis en plus, on se connaît assez bien avec François Berléand, et il est très rieur, et ça peut m'arriver aussi. Et donc déjà, de pas se regarder, c'est bien, parce que on se fait pas rire ni l'un ni l'autre. Et parfois, ça m'échappe. Et il y a des moments où on parle en même temps, on dit la même chose, parce qu'on est en dialogue avec elle tous les deux. Enfin, je sais pas comment on dit un dialogue à trois quand ce n'est pas
un trialogue.
Vraiment un trialogue puisque ce sont deux dialogues. Et donc il faut qu'on soit calés ensemble Et ça, c'est assez compliqué à réaliser.
On va aborder ce premier sujet avec vous, Léna Labalansky, les théories sur la fin du monde. Ah. On s'est dit encore une feel-good d'émission. Figurez-vous que ces théories de fin du monde trouvent un écho grandissant auprès du grand public, et à raison. Les catastrophistes qui prévoient l'effondrement de notre civilisation vers 2030, hein, ils nous disent. Ils incitent à s'y préparer. Un effondrement d'un bloc, puisque tout est interconnecté dans notre société mondialisée. Si pour la transition écologique, ils estiment que c'est déjà trop tard, eh bien, il faut commencer à s'adapter à un autre mode de vie, voire de survie.
Hey, les copains, regardez. J'ai trouvé deux moutons à la décharge.
Voilà, ça, c'est de l'initiative pour le collectif. Bravo, Dylan.
Bravo, Dylan.
On pourrait exploiter leur laine.
Non, on va les bouffer, ces moutons, c'est plus égalitaire.
Ouais, carrément, vas-y, à fond. Mais attendez, si on les fait se reproduire, on a un joli troupeau, comme ça, on aurait de la viande tous les jours.
Attendez, ou sinon, on n'en mange qu'un des deux, et on garde l'autre pour faire un troupeau.
C'est un extrait de Problemos, le film d'Éric Judor. Ce thème du catastrophisme et des collapsologues, de collapse ça veut dire de s'effondrer d'un bloc, vous y pensez parfois au futur et à la fin du monde?
Mais pas du tout, ça m'échappe complètement, j'ai fait l'impasse sur le sujet. Je crois.
Mais on va tous crever, hein, Lionel. Hein,
ça je le sais, mais tous en même temps, j'ai du mal à y croire.
Alors, il y a la fin des énergies fossiles, le réchauffement climatique, la disparition des espèces,
des insectes
surtout également.
Mais est-ce qu'on aura toujours Internet?
Ah,
est-ce qu'il y aura du Wi-Fi? Ça, c'est oui,
alors moi, je suis plutôt dans une branche plus américaine qu'on appelle le survivalisme, qui prévoit un bunker et des réserves de nourriture, tandis qu'en Europe, on se prépare plus à la fin du monde par le partage, la solidarité, la décroissance.
L'Europe, c'est la gauche,
bien sûr. C'est bien connu.
Donc, est-ce que vous trouvez cette idée farfelue de penser à ça, ou vous vous dites pourquoi pas se poser la question? Est-ce que là, on travaille à la transition écologique seulement maintenant, et peut-être qu'il est déjà trop tard, on ne sait pas.
Moi, j'ai l'impression, à mon petit niveau, de faire ce qu'il faut, ou en tout cas d'essayer d'avancer,
vous
de faire ce qu'il faut.
Vous faites pipi sous la douche.
Absolument.
Ah, c'est bien.
Absolument. Et je veux même dire que parfois, j'utilise pas de papier toilette avant de prendre la douche.
Ah,
je suis allé loin.
Ah, vous êtes radical.
Je vais gagner des points.
Il va y avoir vite fait des toilettes sèches installées au théâtre Édouard VII.
Et
vous faites votre part, quoi.
Je fais ma part, et j'ai bien conscience que c'est pas le cas de tout le monde, et pas le cas des industries et des pouvoirs publics en général. Mais de là, j'arrive pas à imaginer le chaos.
À me projeter
là-dedans. Je me dis qu'il va y avoir un sursaut, qu'il va se passer un truc très grave, qui est souvent le cas en général, où on réagit.
Ou qu'on va trouver des solutions, que l'intelligence artificielle va nous aider, des choses comme ça.
Oui, alors je sais pas si c'est une solution.
Le fait que les jeunes prennent ça à bras le corps, ça vous surprend que ça vienne de cette génération-là?
Parce qu'on les élève là un peu comme ça. Je vois mes enfants, ils ont des réflexes maintenant que nous on a appris au fur et à mesure, mais eux ça a été inné, c'était comme l'iPad.
C'était instinctif.
Est-ce que ça vous choque qu'il n'y ait pas de sursaut international, et que des pays comme la Chine par exemple, mettent pas ensemble à un moment? Est-ce que ça vous met pas en colère?
Je comprends pas que ça vienne en plus d'un dirigeant, parce que c'est souvent le cas, c'est-à-dire que ça, c'est une personne qui, pour le coup il y a Trump qui prend le pouvoir et qui nie donc le réchauffement climatique. Quand il fait froid, il dit vous voyez, il fait froid, hein, et donc tout s'arrête. C'est-à-dire qu'on avait une petite avancée avec la COP21, donc tout est bloqué parce que ce type est là pendant 5 ans et
4 ans, heureusement.
Oui, 4 ans.
Ça n'a pas changé grand-chose.
Il lui reste 2 ans,
ouais.
peut-être plus. Et on fait des sauts en arrière tout le temps, et il n'y a pas vraiment de prise de conscience.
Bah, quant à la Chine, elle s'en fout complètement.
Ah oui, ça n'existe pas. Non.
Voilà pour ce sujet sur la fin du monde.
Ça fait plaisir.
Ça vient bien en juin. Hein, la Belanski.
J'ai pas de recette non plus. Hein, je suis désolé.
Non, pas déçu. Hein, vous n'ayez pas une solution précise. Bon, pas ouais. Non, pas vous y aller. C'est bon en fait. On a plus besoin.
On sera là. Nous, on sera dans la radio. On continuera à croire en un monde meilleur, au moins pendant une heure, de 17h à 18h. Et aujourd'hui, c'est avec Lionel Belanski. Et elle aussi, elle est avec nous. C'est Clara Dupont-Monod.
Eh bien oui, Charline, puisque l'actualité, c'est aussi Donald Trump qui s'est dit mécontent après avoir appris qu'il n'aurait pas les crédits pour construire son fameux mur à la frontière mexicaine. Alors, il a dit qu'il n'était pas content, mais content, il a dit. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, Lionel Belanski, mais souvent, les noms propres sont facétieux. C'est qu'ils désignent parfois exactement l'inverse de ce que la réalité montre. Par exemple, « a chump » en anglais, cela signifie « un atout » en français, ce que n'est pas précisément Donald Trump, qui est plutôt un boulet. Et c'était exactement comme d'appeler à renverser la table, faire la révolution, quand on s'appelle Philippe Poutou. Problème, bien sûr. Ou se dire anti-riche, alors que justement, on porte un nom d'hôtel de luxe, comme Meurice, au hasard. Tout ça pour vous dire qu'il faut...
Ibis.
Voilà, c'est Formule 1. Tout ça pour vous dire qu'il faut se méfier du patronyme, il est souvent espiègle, il aime prendre le contre-pied de la personne qui le porte. Et ce sens du comique va assez loin. J'en veux pour preuve un petit livre qui vient de sortir, et qui s'appelle « Les noms ridicules de l'histoire de France », signé de l'historien Bruno Fulini. Il s'est amusé à explorer notre histoire uniquement à la lumière de ses patronymes blagueurs. Et il confirme que très souvent, l'individu construit toute sa vie pour faire mentir un patronyme un peu honteux. C'est le colonel Dominé, né en 1848, qui se battit comme un diable lors de batailles du Tonkin et montra combien Dominé fut dominant. C'est le chirurgien... Ça a vraiment existé tout ça. Hein. C'est le chirurgien Jacques Ambroise Monprofit qui montra toute sa vie un grand désintéressement jusqu'à sa mort en 1922. C'est Henri Poincaré, bien sûr, qui lutta contre l'aberration géométrique de son nom en devenant un grand mathématicien. Et c'est Angélique de la Motte, née en 1600, qui devint religieuse. Forcément. On découvrit plus tard qu'elle était hermaphrodite, ce qu'il y voudra... De la Motte, vous n'avez pas compris ?
Non.
Il n'a pas compris, c'est pas grave. On découvrira plus tard qu'elle était hermaphrodite, et pour cela, elle écopa d'un procès terrible en 1661. Mais vous voyez, le nom porte une malédiction qu'il faut rompre, et l'on comprend mieux la carrière de Charline, la personne la moins morbide du monde, quand on sait que justement, Van Hoenecker désigne un cimetière. Voilà. Alors parfois, il se produit l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'être une malédiction, le nom dessine un destin. Il prédispose une existence. Comment expliquer autrement que le docteur Prout, né en 1785, spécialiste de la chimie organique, enseigna toute sa vie le fonctionnement des gaz d'estomac? Comment expliquer que Louis Lurine inonda le 19e siècle d'articles, de livres, de pièces de théâtre? Bref, que Louis Lurine pissa à ce point de la copie. Quant à Monsieur Butin, bien sûr, il ne pouvait être qu'industriel et homme politique. Il fut député de l'Oise en 1906. Le patronyme annonce la fonction, le caractère, les passions d'une personne. Voilà pourquoi il est grand temps, cher Lionel, de s'appeler Lionel Crève-l'écran ou Alex Rateau au choix. Enfin, n'excluons pas la puissance inconsciente du nom qui peut aussi pousser l'individu à se transformer pour épouser ce que son nom suggère. Ainsi du romancier Nicolas Gogol qui a fini neuneux après s'être volontairement affamé sur les conseils d'un prêtre fanatique, il y a plus malin, avouez. Ainsi de François Le Hideux qui a dit oui à Pétain, mais aussi de Philomène Boudin, prostituée née en 1860, qui mangea beaucoup et qui était si magnifiquement en chair que Paul Verlaine célébra, je cite, « cuisse grosse mais fuselée, tendre et ferme par en dessous, dessus d'un dur qui serait doux, musculeuse et potelée ». Je vous redonne les références. « Les noms ridicules de l'histoire de France » de Bruno Fulini. C'est paru chez Librio et ça coûte 3 euros.
C'est rigolo.
Et c'est merveilleux.
Merci Clara Dupont-Monod. Bon, il y a quand même un sujet qu'on voudra aborder ensemble. C'est plusieurs auteurs de romans qui s'emparent des seconds rôles de l'histoire pour en faire des héros de la littérature. Par exemple, qui connaît Gerda Taro, jeune Allemande qui combattait le nazisme, mais surtout reporter photographe tombé sur le front de la guerre d'Espagne. Voilà, c'est les numéros 2 de l'histoire qui deviennent numéro 1 par le truchement de la littérature ou du cinéma.
Qu'est-ce que ça peut vous foutre que je sois le premier? Qu'est-ce que ça peut vous foutre que je sois le premier? Je veux être le premier, moi alors!
Et moi aussi.
Comment?
Je dis, moi aussi, je veux être le premier.
Mais alors, monsieur, moi, je suis dans ma rue. J'ai le droit d'être le premier dans ma rue. Vous n'êtes pas dans votre rue, vous?
Non.
Eh ben, alors, allez dans votre rue, comme ça, vous pourrez être le premier.
Vous avez raison.
Et on pourrait être le premier tous les deux, comme ça.
Bien.
Et vous ne bougez pas. Vous ne partez qu'après mon départ. Longtemps après.
Un extrait de L'Homme Orchestre de Serge Corbère. C'est un article paru dans le Figaro qui recense plusieurs ouvrages.
On lit beaucoup le Figaro en ce moment.
Ouais, ouais,
c'est qu'il n'est peut-être pas si mauvais.
Attendez, il arrive même dans le sketch. Alors, on va vous le ouais, bien sûr. Mais c'est, oui, il s'agit parfois de second rôle de l'histoire, mais d'oublier aussi de l'histoire. Ça, c'est la magie de la littérature ou du cinéma aussi. On se demandait, est-ce qu'un second rôle de l'histoire en général pourrait être incarné par un acteur qui soit très très habitué au premier rôle?
Non, ce que je me disais, ça m'arrange en fait, c'est moi qui fais énormément de second rôle au cinéma,
oui.
qu'on voilà, maintenant on les remette un peu en surface, mais oui, je pense
si ça
que
se trouve, il y aura un roman sur votre vie de second rôle.
Oh, je suis pas le seul, on est,
bien sûr. Vous faites partie de ces gens qu'on reconnaît, qu'on a vu dans beaucoup
Oui, oui, qu'on dit, mais ça te fait pas chier de faire tout le temps des second rôles?
Non, bah, qu'est-ce que vous répondez à ça? Ça vous embête? Bah, pour vous, il y a une noblesse.
Mais moi, je suis très heureux de travailler.
Ouais, je suis d'accord.
Si j'ai une chance de travailler énorme. Et je repense toujours à ça. Mais c'est pas de la modestie en me disant, quand j'ai commencé, j'avais, moi, envie de jouer un peu au théâtre. Et j'ai eu de la chance de faire du cinéma. Et j'ai eu, voilà, des rôles formidables. Et j'espère
que vous, j'en aurai d'autres. De ceux qu'on peut absolument pas louer, parce que vous avez joué dans plein aussi de succès populaires. Il y a Delphine 1, Yvan 0, de Farrugia, Didier d'Alain Chabat, Ma femme est une actrice d'Yvan Attal, La Beuse de François Dozania, mais qui a tué Pamela Rose, Double Zéro, enfin, c'est impossible de pas voir un film avec Lionel Abelansky. Et parfois, les gens dans la rue, est-ce qu'ils arrivent à mettre un nom ou ils vous confondent?
Ça dépend, ouais. Bon, parfois, on m'appelle Michel Hazanavicius. Ouais, c'est parce qu'on a, alors, je suis très fier. J'ai dit, ouais, les artistes, c'était vraiment du beau boulot. Ouais, j'ai bien bossé. Mais ouais, les gens, on a des noms un peu compliqués. Et puis, on a commencé un peu en même temps avec, les films de Dominique Farrugia.
Et il paraît que quand on vous cite un nom, on dit, ah, mais vous êtes, et qu'on dit un nom de quelqu'un que vous n'aimez pas, vous répondez.
Qui vous a dit ça?
J'ai lu ça dans une interview. Vous répondez, je t'emmerde.
Je suis Charles Berling et je t'emmerde. Bon, pardon Charles, mais Charles Berling ou un autre, mais parce qu'on m'a confondu parfois avec Charles Berling ou avec Denis Podalydès.
C'est vrai. Lionel Abelansky, revenons-en.
Vous savez très bien qu'il y a un sketch à la fin de l'émission. Hein.
Il est très bien qu'il y a un
rôle à jouer. Vous avez peut-être entendu qu'il y a eu un amendement au projet de loi pour une école de la confiance. Notre ami Blanquer a fait ça et qui prévoit de reconnaître l'homoparentalité dans les formulaires. Ce sera plus père-mère, ce sera parent 1 et parent 2. Un sujet angoissant à traiter pour la rédaction du Figaro.
Ah ouais, terrible.
Personne ne veut y aller. Alors, vous êtes journaliste, Charline aussi, et Guillaume Meurice est le chef d'édition.
L'article du Figaro ce matin est très lol.
Bon, alors, qui veut couvrir la guerre en Syrie cette semaine pour le Figaro?
Ah,
là?
Moi,
c'est moi.
Ah bah, quel enthousiasme.
Je vous en supplie, il y a tout, sauf l'amendement parent 1, parent 2.
Non, moi je suis même prête à me rendre dans un centre d'hébergement pour migrants.
Moi aussi, mais seulement celui du 16e arrondissement.
Attendez, si vous ne pas traiter le sujet, vous seriez prêt à renier père et mère?
Non, plutôt à renier parent 1.
Et parent 2.
Ouais, je crois qu'on tient un angle alors.
Non,
là.
Non, mais vous nous imaginez à la manif pour tous?
Bah oui, plutôt bien, je vous rappelle que vous bossez au Figaro.
Vous avez pensé au slogan un papa, une maman?
On aura l'air de quoi avec nos pancartes? Un parent 1, un parent 2.
Bah de clown comme d'habitude.
Non mais moi je pense que les enfants ont besoin de repères.
Vous voulez dire qu'ils ont besoin de parent 1?
Mais pourquoi ce serait pas la mère le parent 1?
Ah, ça c'est un bon débat ça.
Ah mais ça je veux bien le traiter alors.
Bon super, alors tu vas voir, tu vas y arriver comme papa dans maman.
Tu veux dire comme parent 1 dans parent 2?
Ouais, ou comme parent 2 dans parent 1 quoi.
Bon et si ce projet de loi permettait d'éviter de mettre les enfants dans des cases?
J'en parlais justement à notre éditorialiste préféré.
Et que disait Éric Zemmour?
Mais il dit quoi l'humaniste?
Que lorsque les parents sont noirs, c'est compliqué de ne pas mettre l'enfant dans une case.
C'est excellent. J'adore l'humour d'Éric.
Ah non, mais c'était pas de l'humour.
Et dites, ça serait pas l'heure de la prière, là?
D'où, Seigneur, on a failli oublier.
Au nom du parent 1, du Fils, du Saint-Esprit.
Ah, j'ai une idée.
Dès que vous priez, vous avez une idée, ça vient d'en haut.
Mais Dieu est miséricordieux. Donc, mon idée, on interview Ludovine de la Rochère.
Non, mais je me disais, vu l'âge de notre électorat.
Oui, de 77 à 97 ans, donc.
Plutôt que de parler pour une école de confiance, est-ce qu'on parlerait pas plutôt des couches confiance?
Excellent! Ça, avec ça, on va captiver les grands-parents 1 et les grands-parents 2.
Alex, le GPS nous indique qu'on arrive bientôt à destination.
L'occasion de mettre la chanson qu'on a envie d'entendre, et c'est souvent celle de Frédéric.
Avant d'arriver, hop, on met dans le... Comment on appelle ça dans l'autoradio?
Exactement, on met la cassette.
Très bien. Ah,
et on rembobine pour écouter l'amour au catéchisme.
Tout en essayant de faire honneur à notre invité, Vladimir Cosma.
Ah là là là, qu'est-ce qui m'attend là?
J'ai reçu l'amour au catéchisme. J'ai mal au cul, mais c'est au nom du Christ que le curé m'a dit: viens mon petit gars, ce sera notre secret. Te retourne pas, c'est pas mon doigt. J'ai reçu l'amour au presbytère. J'étais tout nu, mais pourquoi faire mon père? Allons, mon fils, tu joues le rôle d'Adam. C'est au chapitre 10, Adam se fait prendre sauvagement. Église, with my pédophilie, faut bien tromper l'ennui dans la sacristie. Déjà qu'il faut se coltiner des histoires à la con. On sait bien que Dieu sait bidon. Église, with my pédophilie, il faut bien s'amuser dans l'évêché. On va pas se taper, merci bien, des grenouilles de bénitier, des Christine Boutin, pitié. Le curton avec une robe noire et des bijoux, c'est quand même un petit peu bizarre. S'il vous dit qu'il est venu en scout, peut-être qu'il s'agit pas d'un scooter mais d'un vrai scout. Le père prena sous la soutane, n'avait pas honte de bander comme un âne. On l'aurait même vu au JMJ faire le signe de croix avec son zizi. Le curton avec une robe noire aime les enfants qui sur ses genoux viennent s'asseoir. Enfant de cœur, ouais ouais c'est ça mon cul, il vaudrait mieux dire d'ailleurs des enfants de cul. L'église étant une vraie mafia, nous pouvons compter sur l'omerta. Rien sur rien entendu ni rien vu, chez les cathos on aime bien le petit Jésus. Église with my pédophilie.
Voilà, nous sommes arrivés à destination, oh, Alex.
C'était bien, quel beau voyage. Nous avons
on
fait.
Reprendra la route demain en compagnie du maestro Alexandre Desplat et de l'écrivain Atik Raïmi.
Je reviens, à demain.